Bonsoir, la femme victime de violences de tout genre. Le fléau est loin d'être vaincu dans le monde. La RDC, pour sa part, s'est penchée sur cette question ces deux dernières semaines en organisant notamment 16 jours de plaidoyer pour interpeller sur ces violences. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est clair sur ses objectifs, arriver au point zéro cas de violence faite aux femmes à l'horizon 2030. Notre second thème au débat ce soir, c'est plutôt ce moment d'évaluation. Le processus de décentralisation de la République démocratique du Congo a été lancé il y a 13 ans déjà. Un forum de 3 jours est en cours en ce moment à Kinshasa. Objectif, évaluer les avancées et les imperfections de ce processus qui a éclaté le pays en 26 provinces au lieu de 11. Le président de la République a annoncé la mise en place d'un mécanisme de mise à niveau des gestionnaires locaux afin de mettre un terme à l'instabilité des exécutifs provinciaux observés depuis un moment déjà. Pour évoquer tous ces sujets, nous serons avec Jean-Claude Bimoila, éditeur et rédacteur en chef du média en ligne toutheure.net. Jean-Claude Bimoila, bonsoir.
Bonsoir.
Mais également Pierre-Gérard Elenga, bonsoir.
Bonsoir, Donald Wadimba.
Avec nous en studio, journaliste politique et enfin Ali Boukassa, directeur général de la radio communautaire Boutoka, émettant de Moneditou, également coordonnateur de l'agence Lumière dans la communication Lucom en sigle, toujours à Moneditou, province de l'Omami. Ali Boukassa, bonsoir.
Bonsoir, chers confrères, et merci de l'invitation.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Et voici notre première halte documentaire, voici la revue de presse.
Bonsoir, commençons cette revue de presse par le deuxième forum national sur la décentralisation où le président de la République a saisi l'occasion de s'exprimer mercredi 11 décembre sur un sujet qui défrait la chronique depuis quelque temps en RDC. Il s'agit de l'instabilité dans laquelle certains acteurs politiques ont plongé la plupart des provinces du pays pour des intérêts individuels mais aussi ceux de leurs partis et regroupements, renseigne le Phare. Le spectacle auquel nous assistons actuellement dans nos provinces est assez désolant. On ne peut pas comprendre, surtout dans les provinces où il y a énormément de poches de violence, qu'il y ait des intérêts politiques et mesquins des individus qui tentent de déstabiliser ces institutions provinciales. C'est inadmissible et absolument pas acceptable, fait remarquer le président Tshisekedi, cité par le Phare. Le chef de l'État a qualifié la décentralisation d'une expression de la confiance du peuple à ses représentants qui doivent l'aider grâce à la mise en œuvre des politiques publiques à prendre en main son destin à travers sa participation aux programmes et projets de développement. C'est ça le peuple d'abord, renchérit-il, cité par l'agence congolaise de presse ACP. Par ailleurs, le président de la République annonce la tenue des élections urbaines, municipales et locales en 2020, informe Forum des As. Pour le président de la République, la non-tenue de ces élections constitue un frein à la mise en œuvre des politiques publiques au sein des entités de base. À ce sujet, il déplore le fait que les entités territoriales décentralisées continuent à être dirigées par des autorités nommées. Parlons femmes. À présent, pour elle, Point Info informe que la campagne des 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles s'est clôturée officiellement le mardi 10 décembre à Kinshasa. Au cours des cette cérémonie, les différentes parties engagées dans ce sens ont demandé à la ministre d'État et ministre du Genre, Famille et Enfants de pérenniser la sensibilisation de la population sur toute l'étendue de la RDC dans le but d'atteindre toutes les couches appelées à combattre ce fléau. Pour sa part, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomeya, a exprimé la détermination de son gouvernement à œuvrer pour bannir ce fléau. Dans le même ordre d'idées, la patronne du genre a invité toute la communauté nationale à s'approprier ce combat avant de saluer le travail abattu par les experts de son ministère, les partenaires techniques et financiers, fait savoir ouraganfm.com. Au Lualaba, renseigne dépêche.cd, Nathalie Lundangandou, commissaire générale en charge du genre, a appelé les Lualabais à lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. La patronne du genre, Famille et Enfants, a par ailleurs loué les efforts du président de la République, Félix Tshisekedi, matérialisé en province par le gouverneur Richard Mouyej, effort consistant à redonner à la femme et jeune fille congolaise leur place. Enfin, la prospérité online.net s'intéresse, elle, à la déclaration de la représentante des étudiants de la RDC qui a réaffirmé l'engagement de tous les étudiants à dénoncer les violences dans les milieux universitaire.
Merci Kelly Nkouté. Jean-Claude Bimoala, éditeur et rédacteur en chef du média en ligne toutheure.net. Jean-Claude, avant d'aborder nos deux thèmes de ce soir, avez-vous à ce stade une actualité que vous pensez importante à nous partager?
Ah oui, bon, il y en a plusieurs. J'ai choisi à la volée la prochaine adresse du président de la République au Congrès, qui se précise, je pense, pour cette fin de semaine. Il y a plusieurs attentes, mais la plus importante, je pense, c'est son bilan des 100 jours, des chantiers des 100 jours lancés à travers les pays. Un bilan qui me paraît plus ou moins mitigé, et parce que plusieurs attentes ne sont pas encore assouvies, plusieurs chantiers sont en souffrance. On se demande bien s'il y a eu des moyens disposés pour ces travaux, mais vraiment, il y a plusieurs questions auxquelles le président est appelé à répondre. Et plusieurs autres questions d'intérêt national, hein, sur l'avenir de sa coalition, et plusieurs autres questions internationales importantes de l'heure. Voilà.
Merci Jean-Claude Bimoala. Pierre-Gérard Elenga, votre commentaire libre.
Bon, écoutez, merci Donna pour la question. Je salue Jean-Claude et puis mon ami Boukassala, il se trouve. Moi, rapidement, je vais revenir un peu autour du comportement de nos hommes politiques d'une manière générale, qui ne savent pas à un moment donné, quand ils deviennent hommes d'État, quel comportement finalement adopter. Je fais ici allusion à toutes ces escalades verbales des dernières heures que nous avons connues depuis un temps dans ce pays. Et moi, je me pose la question, quelle est la limite finalement entre les intérêts partisans et l'intérêt supérieur de la nation? À entendre tous ces gens du FCC, KHL, Lamouka et consorts, quand ils parlent, vous avez l'intention tout de suite qu'ils ne parlent que pour leur ventre, pour leurs propres intérêts, leurs femmes et enfants et consorts. Mais ils ne parlent pas pays. Parce que vous allez voir que du côté, par exemple, FCC, tout se réduit à la personne de Kabila. De l'autre côté, tout se réduit aux intérêts de tel poste, 70%, tout ça, un consort. De l'autre côté, les plans de la sortie de crise, alors qu'on se propose soi-même comme étant président de cette institution. Alors, je crois qu'il est grand temps que le peuple congolais qui a eu à aller aux élections le 30 décembre dernier de l'année qui vient de passer, comprenne que finalement on arrivera en 2023, et si les hommes politiques continuent à ne pas comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire une fois aux fonctions publiques de l'État, il faut sévèrement les sanctionner. Rapidement, sur le plan provincial à Kinshasa,
très rapidement.
C'est ce comportement bizarre des policiers, d'une certaine police, qui sont commis au contrôle des vignettes et contrôle technique des véhicules. Ils essaient d'exagérer parce qu'ils embrouillent les routes et finalement il y a le désordre, l'embouteillage, et en même temps, si vous n'avez pas de documents, vous glissez un petit 5 000, 2000. Alors je me demande où allons-nous finalement? On cherche les changements, mais tout de suite c'est le contraire que nous trouvons, et ça c'est à déplorer. Kassongo qui nous écoute doit tirer les oreilles de ces policiers, qu'ils soient un peu une police républicaine au service de la population.
Ali Boukassa, directeur général la radio communautaire Boutoka, émettant depuis Mouneditou, également coordonnateur de l'agence Lumière dans la communication Lucom en sigle, toujours à Mouneditou, dans la province de la Lomami. Votre avant-goût informationnel.
Merci, cher Donan. Déjà, permettez-moi que je retourne l'appareil au confrère Pierre-Gérard. Merci et bonjour.
Merci.
Disons que ce que je pourrais commenter en libre, il faut évoquer le cas de la route nationale numéro 1, Boujima et Mouneditou, qui est menacée de coupure par les têtes d'érosion. Ici, en pleine ville, il y a déjà deux attaques. Déjà, les dernières sorties médiatiques de certaines structures de la société civile locale demandent aux autorités de carrément couper ou d'interdire le passage à ces deux niveaux, parce que c'est devenu déjà des tombes ouvertes, sinon un danger public. Qu'à cela ne tienne, il faut également noter que lors de la publication du programme d'urgence du président de la République, Fatshi, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, on disait que cette route nationale aurait 32 kilomètres de route où il faudra que l'on attaque les points chauds et faire la lutte anti-érosive, mais jusqu'ici, ces travaux, tant attendus par les Dutois, n'ont jamais vu un début de secours, et voilà pourquoi, encore une fois de plus, la population de Mouneditou est en train d'appeler au secours le gouvernement central.
Merci Ali Boukassa. Notre premier thème de ce soir, les activités de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles en République démocratique du Congo ont pris fin mardi dernier. Lancée lundi, le 25 novembre, par le ministre du Genre, Famille et Enfants, cette campagne a eu pour thème « Jeunesse congolaise, dressez-vous contre la discrimination et le viol ». Pour la ministre d'État, Béatrice Lomeya, ces activités consistent à sensibiliser la communauté, tant nationale qu'internationale, sur les questions de violence et de viol qui troublent la quiétude des populations. Elle précise que l'idéal est d'arriver au point zéro cas de violence faite aux femmes à l'horizon 2030. Les détails avec Florida Kambu.
Selon Madame Odile Mabanza Dibi, chef de bureau urbain du service Genre, Famille et Enfants, qui a présenté les rapports sommaires de cette enquête, les maisons de tolérance qui exploitent ces filles mineures sont éparpillées dans toutes les quatre communes de la ville. Elle renseigne que le nombre a augmenté par rapport aux années passées.
Nous avions atteint 575 IG qui exploitent sexuellement et économiquement les enfants adolescentes de 12 à 17 ans.
Pour sa part, Madame Yolande Kalungero, animatrice chargée du genre au sein du groupe d'associations de défense des droits de l'homme et des paix, GADOP, l'impunité et le manque d'accompagnement des enfants victimes d'exploitation sexuelle et économique contribuent à la multiplication des maisons de tolérance exploitant ces enfants.
Dans cette ville, il n'y a pas de services qui peuvent réprimer les tenanciers de ces maisons-là de tolérance. Et aussi, les organisations, dans la plupart des cas, se limitent seulement à faire l'identification. Mais il n'y a pas des accompagnements, des suivis pour voir si les filles mineures qu'on a identifiées dans ces maisons de tolérance qu'on appelle KIG, qu'est-ce qu'on peut faire avec elle?
La pauvreté, le manque d'emploi des parents de ses enfants, les conflits fonciers, la délinquance juvénile et la guerre sont à la base de ces situations, ont expliqué les enquêteurs. Butembo, Florida Kaambo, Radio Okapi.
Jean-Claude Bimoala, les violences faites aux femmes sont de plusieurs natures. Mais est-ce que vous comprenez, par exemple, que la RDC mette l'accent sur deux ou trois d'entre elles particulièrement?
Non, le chantier de la violence contre les femmes est énorme. Je pensais que pendant cette campagne, on devait faire la promotion des droits des femmes, prévenir les violences, dont les viols et la forme la plus vile, mettre en lumière les voix des victimes. Mais bon, je me demande bien, de là où je vous appelle en cet instant, je suis en Bantangou ou dans le Congo central, je me demande bien par où est passée cette campagne. Quelle est la place des populations rurales en Bantangou où je me trouve en ce moment? Il n'y a pas l'ombre de cette campagne nationale ou internationale. Non. Je pense vraiment qu'il faut éviter des actions de saupoudrage, des campagnes virtuelles à consommation extérieure, qui n'atteignent que quelques cibles des grandes villes triées sur les volets.
Mais Jean-Claude Benoît, vous êtes en Banzangungu, cette partie entre Kinshasa et la province du Congo central. Seulement, il y a quelques jours, m'avez-vous dit, est-ce que vous avez eu le temps de suffisamment monitorer les 16 jours d'activité qui ont été lancés?
Oui, bien pour moi, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. J'ai fait le tour de la ville, je suis allé à la division, au bureau de la division provinciale de questions genre et enfants. On ne connaît pas cette campagne, malheureusement. Ça se limite donc entre quelques officiels, on s'échange des invitations, on se réunit dans une salle du Fait de la Gombe, et on parle, on fait des discours, on appelle les médias, et ainsi de suite. Mais bon, c'est une campagne nationale et internationale, je pense vraiment qu'on devait y mettre le maximum de moyens pour atteindre essentiellement les populations de là. Parce que c'est dans ces zones-là essentiellement que se posent les questions des viols et des violences faites aux femmes. C'est dans ces milieux-là qu'on retrouve les taux de viols et de violences faites aux femmes les plus élevés du Congo. C'est ce sont ces zones qui font du Congo la capitale de la violence faite aux femmes. Ce n'est pas dans les pays. Voilà pourquoi je suis un peu déçu.
Alors,
du contenu qu'on a donné à cette campagne. À cette quinzaine de sensibilisation et de campagne contre les violences faites à la femme.
Alors, Jean-Claude, dis-moi là.
Oui. Je voudrais bien mettre un bémol. Toutefois, je reconnais qu'il y a eu ces 10 dernières années beaucoup d'avancées, quand même. Il y a eu un grand arsenal juridique pour pénaliser les violences faites aux femmes. On a vu plusieurs procès à travers le pays, à grand renfort des médias, dans les tribunaux et un peu partout. À travers le pays pour justement montrer que le Congo ne reste pas bras croisés dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. Mais comme je viens de le dire, le plus grand défi se trouve dans la sensibilisation des populations les plus affectées. Ces populations les plus affectées se trouvent dans le monde rural. Et là, je suis prêt. Et si je veux aller beaucoup plus loin, si nous voulons avoir des résultats sur la lutte contre les violences faites aux femmes, je pense qu'il faut attaquer aux véritables problèmes qui a amené, qui a fait du Congo la capitale de la violence contre les femmes. C'est la guerre. La communauté internationale doit arrêter de faire l'hypocrisie. Il doit s'attaquer aux vrais problèmes. Il doit apporter au Congo les solutions les plus idoines pour mettre fin à la guerre qui ronge le Congo sur tous les plans de son existence. La grande question qu'il faut résoudre.
Alors, Jean-Claude Bimola, vous semblez très convaincu que la majorité des violences, selon vous, est surtout observée dans les milieux ruraux. Est-ce que vous pouvez nous dire plus ou moins, selon votre observation, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Bien évidemment, dans les régions où il y a des groupes armés, on comprendrait que c'est l'activité de ces groupes armés qui peut être à la base, mais dans les endroits où il n'y a pas d'activité des groupes armés, qu'est-ce qui peut expliquer cette présence des violences faites aux femmes selon vous?
Mais je pense essentiellement, je pense au manque d'informations. Parce que le viol n'est pas la seule violence faite aux femmes, il y a plusieurs violences. Le viol n'est que la forme la plus vile des violences faites aux femmes. Et je pense dans ce milieu où prédomine les coutumes, où on est habitué à vivre depuis plusieurs siècles selon un certain mode de vie, où la femme est essentiellement une chose, une machine à produire les enfants, ou une machine économique qu'on amène en forêt pour aller détruire les terres. Les gens là doivent aujourd'hui changer d'avis pour comprendre que la femme c'est un partenaire, c'est un travail de longue haleine. Mais aussi, dans le milieu rural, il n'y a pas suffisamment d'agents judiciaires, il n'y a pas suffisamment de tribunaux où il faut s'adresser pour constater les faits. On fait plusieurs kilomètres parce qu'on se décourage en route. Et voilà, il y a plusieurs raisons. Essentiellement, c'est le manque de sensibilisation à la question de la violence faite aux femmes.
Merci Jean-Claude. Oui. Puis Gérard Elenga, quelle perception vous-même avez-vous au quotidien des violences faites aux femmes?
Bon, écoutez, comme tout journaliste, modestement, comme tout bon journaliste, il faut le dire, ce sont des questions, au-delà des autres questions pour lesquelles nous occupons, qui ne nous échappent pas. La violence faite à la femme aujourd'hui en République démocratique du Congo est une réalité. Est une réalité. Je prends par exemple les activités qui venaient de se passer là au cours de ces deux semaines. Mais moi, je dis que ce genre de campagne devait avoir un caractère de la Madimba permanent. Ne pouvait pas être séquentiel ou, si vous voulez, ponctuel. Mais ça devrait plutôt être quelque chose de permanent. Parce que lorsque vous allez au niveau de toutes nos institutions, je suis là au niveau national, vous avez des commissions ad hoc ou permanentes qui concernent cette question de violence faite à la femme. Mais à la présidence de la République, vous avez des conseillers ou des conseillers qui s'en occupent de la question. Au niveau du gouvernement, il y a tout un ministère, un peu partout dans les institutions. Mais on se pose la question... qu'est-ce qui se passe finalement? C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut tout nous caricaturer. Là, on présente la République démocratique du Congo comme, si pas la capitale africaine, mais mondiale de la violence. Et ceci, dans toutes ses formes, la violence la plus vécue ici, c'est le viol. Et là, nous l'observons plus au niveau de la partie orientale du pays, où sévissent toutes ces guerres, toutes ces rébellions avec tous ces groupes armés que nous avons là-bas. Et à ce titre, vous avez ces genres d'activités qui sont organisées par les différentes ONG féminines, par la société civile. On va dans une salle, on donne l'argent, on donne de l'eau, du sucre, des gâteaux aux gens. Après, on sensibilise. Après, c'est tout. On saute sur l'occasion. Mais ici, il faut justement marteler sur la cause principale de toutes ces violences faites à nos femmes, qui ont fait aujourd'hui que quelqu'un comme Mukwege puisse avoir une renommée mondiale, puisse avoir des prix Nobel et tout ce que vous voulez. Tout simplement parce que les ADF vont, violent nos soeurs ou nos mamans qui sont à l'est du pays. Et après, Mukwege vient, il essaye de les soigner. Bon, ils ont fait son travail et ils trouvent l'argent là-dessus. Parce que moi, je me dis aussi, le jour où la guerre sera totalement éradiquée à la partie orientale du pays, on inviterait peut-être le docteur Mukwege à venir soigner aussi et ici sur place à Kinshasa. Donc, je suis en train de dire qu'il faut dénoncer ceux qui sont en train d'armer tous ces groupes armés, passez-moi la répétition, ce sont les multinationales, ce sont les Français, Allemands, tout ça, parce que je sais à mon humble connaissance que les armes seraient peut-être fabriquées seulement en Afrique d'ici au niveau du sol du continent africain. Mais toutes ces armes qu'ont les groupes armés à l'Est pour causer toutes ces violences faites à la femme congolaise, qui leur donne ces armes-là?
C'est une bonne question, mais pour vous permettre d'enchaîner dans votre analyse, selon vous, en attendant justement de pouvoir vaincre la cause qui est générale, c'est-à-dire les intérêts énormes qu'il y a en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour pouvoir limiter les dégâts?
Oui, au quotidien, par exemple, je me retourne, par exemple, je vois là, chez mon père, vous êtes à l'Équateur ou à Bassankoussou, là où, par exemple, l'accès à l'information n'est pas assez facile. Vous allez, par exemple, à Tchouapa, Ingende, je ne sais où, à Ngandajika, où le problème d'accès à l'information. Ici, les institutions qui s'occupent de la question devraient renforcer le sens de sensibilisation. Il faut continuer à sensibiliser et cette sensibilisation doit être transversale. Donc, doit prendre les institutions étatiques relayées par les églises, la société civile, les écoles, pour déjà à un certain âge qu'on puisse dire à nos enfants, si vous voulez, surtout les garçons, que violer une femme, c'est pas bien. La Bible l'interdit, le Coran l'interdit, d'autres livres sacrés l'interdisent aussi. Donc, ne pas faire ça parce que nous sommes liés à cette femme-là, même si, sur le plan de l'histoire biblique, on nous dit que le péché est venu par elle. Mais c'est par la femme que nous venons au monde, c'est la femme qui devient nos femmes, c'est-à-dire nos épouses, et ce sont elles qui sont nos mamans. On ne peut pas violer une femme, c'est pas bien. Donc la sensibilisation est quelque chose de très important et qui doit ici être quelque chose de très permanent, pas ponctuel, pour que l'information puisse passer. Si l'information passe, vous et moi qui sommes issus des SIC, vous savez que si vous avez l'information, vous avez le pouvoir. Si vous n'avez pas l'information, vous n'avez pas le pouvoir et vous pouvez gratuitement comme ça partir.
Merci.
Voilà ce qu'il faut faire au quotidien.
Merci Pi Gérard Elenga. Ali Boukassa, quel est le témoignage que vous avez à votre niveau des violences faites aux femmes, mais aussi de ce moment que le pays a observé pour faire une campagne et interpeller l'opinion?
Je vais entrer par la dernière partie de votre question. Donc, il faut dire que dans ce pays, nous devons cesser avec de la communication de consommation ou des actions antiseptiques. C'est que ce sont des actions superficielles qui n'attaquent pas l'âme du combat, qui n'attaquent pas l'âme du mal. Je suis même... j'ai été surpris, estomaqué. Je croise une femme, je lui dis, je lui demande comment vont vos 16 jours d'activisme. Et la femme me rétorque, quoi l'activisme? C'est que la femme elle-même, ici à Mouadjidou, ne savait pas qu'il y avait ces deux semaines, plus ou moins, d'activisme. C'est que je me suis dit concrètement, c'est que l'action n'a été qu'une activité principale pour Kinshasa, et non l'intérieur. Alors que, à écouter les statistiques des uns et des autres, vous remarquerez que c'est là où il n'y a pas d'information, c'est là où il n'y a pas d'éducation, là où il n'y a pas de sensibilisation, c'est là que se trouve le vivier, malheureusement, des cas de violence faites à la femme. Vous savez, Donna, dans notre pays, je suis au regret de constater que quand on parle de Kinshasa, on dit qu'on a parlé de la RDC. Non, Kinshasa, c'est à côté de 25 provinces. Et la difficulté dans cette campagne, je comprends dans la culture des nous Congolais, c'est que campagne égale logistique, c'est argent et tout. Est-ce qu'il faut dépenser jusqu'au fin fond de la RDC pour que la campagne se vive? Ça, c'est une question, je raisonne à haute voix. Cependant, les organisateurs de ce genre d'activité doivent savoir que les violences faites à la femme suivent les cultures de chaque entité, de chaque coin de ce pays. Ce pays a des dimensions continentales. Et bon, il y a des cultures qui sont ici, au Kasaï, ici, dans l'Omami, ici, à Mouenidite, qui ne seraient pas celles vécues au Congo central ou bien dans le Bazouélé. Deuxièmement,
Je me dis dans tout ça, c'est que le véritable combat devrait être fait par la femme elle-même. Aujourd'hui, deux interrogations. Qu'est-ce que fait la femme elle-même pour se protéger contre toutes ces violences? Deuxièmement, la femme qui a déjà franchi une certaine étape, qui a déjà un certain niveau d'information et même de leadership, que fait-elle pour venir au secours de ces autres femmes qui se retrouvent dans une situation de désinformation ou d'absence d'information? C'est tout cela le questionnement que j'ai. Et s'il faut revenir aux commentaires, sinon aux analyses des confrères, je veux dire qu'il faut que nous fassions de la lutte contre les violences faites à la femme une vie permanente, de la permanence. C'est culturel et on n'attaque pas, on ne combat pas une culture avec des faits d'annonce, avec des actions épidermiques. Non, il faut un travail en profondeur, il faut un travail conscient et consensuel pour qu'on arrive également à des vrais résultats après s'être posé des vraies questions.
Ali Boukassa, je l'ai relevé tout à l'heure, la RDC a mis plus l'accent sur le viol et les violences physiques, mais les violences faites aux femmes, il y en a de plusieurs natures. Par exemple, vous aussi, au niveau de l'OMAMI, n'avez-vous observé que ces violences-là, où il y a d'autres types de violences, peut-être les violences verbales, peut-être d'autres types de violences physiques et même des assassinats, pourquoi pas?
Il est de grande notoriété, cher Bonheur, que la plupart du temps, nous parlons des violences faites à la femme par rapport à ce qui se passe à l'Est, mais à l'intérieur de la RDC, il y a des situations alarmantes, c'est parce que peut-être on ne dirige pas les viseurs, sinon les projecteurs vers nous, pour que vous en sachiez un peu davantage. Je vais énumérer quelques deux, trois cas. Par exemple, le mariage précoce. C'est le pain quotidien dans la contrée. La discrimination scolaire. Il faut faire étudier le garçon beaucoup plus que la fille. C'est permanent. Ça n'a ni même pas besoin des jumelles ou des lunettes pour se faire voir. Troisièmement, nous tous nous suivons la télé, nous regardons ce qui se passe avec nos sœurs danseuses, la manière dont certains musiciens congolais les habillent. Donc, moi, personnellement, je me dis que ça devrait réfléchir et interpeller les autorités compétentes pour intervenir dans ce genre de secteur.
Mais merci. Votre analyse nous permet justement de pouvoir attaquer notre deuxième sujet du jour. Il y a eu mercredi à Kinshasa l'ouverture du deuxième forum sur la décentralisation. D'après le ministre d'État en charge de la décentralisation, ce forum a pour objectif d'évaluer les avancées et les imperfections de ce processus mis en place en RDC depuis 2006. Par la même occasion, le chef de l'État a, dans son discours de circonstance, annoncé la mise en place d'un mécanisme de mise à niveau des gestionnaires locaux afin de mettre un terme à l'instabilité des exécutifs provinciaux. Nous écoutons Félix Tshisekedi au micro de Paul Matendo.
Je vais peut-être faire une recommandation aux séminaristes pour imaginer des séminaires de mise à niveau ou carrément de renforcement de capacité, pour permettre à ceux qui sont les gestionnaires locaux d'avoir la stature adéquate pour conduire ces réformes et surtout amener des résultats qu'attendent les Congolaises et les Congolais. Parce que le spectacle auquel nous assistons actuellement dans nos provinces est assez désolant. Nous ne pouvons pas comprendre, surtout dans les provinces où il y a énormément de poches de violence, qu'il y ait pour des intérêts politiques et mesquins des individus qui tentent de déstabiliser ces institutions provinciales en s'attaquant au gouverneur. C'est inadmissible et absolument pas acceptable. Je crois que nous avons tous besoin de comprendre quelles sont les attentes de notre peuple et de bien nous préparer à y répondre.
Jean-Claude Bimoila, éditeur et rédacteur en chef du média en ligne touteheure.net, 13 ans après, quel type de bilan faites-vous de ce processus de décentralisation qui a éclaté le pays de 11 provinces comme initialement à aujourd'hui 26 provinces?
Le bilan de l'État après, il est catastrophique. Il est vraiment catastrophique. Ce genre de forum qui devait être permanent
je suis surpris de constater que c'est seulement le deuxième forum en 13 ans de décentralisation. C'est incompréhensible. Faire le bilan et le constat que cette décentralisation est véritablement un échec. C'est ça, c'est un échec. Il y a des difficultés, même matérielles, énormes de fonctionnement. Il y a des entités de décentralisation où les bureaux, c'est des anciennes salles de classe, les conflits de compétences sont permanents, on ne respecte pas la loi de la rétrocession, il y a des motions de défiance qui pleuvent, qui viennent même des toilettes, et il faut sérieusement se demander si cette décentralisation est opportune pour notre pays, hein, parce que je pense que plusieurs personnes voient l'implosion du pays ou la balkanisation du pays par la guerre de l'Est. Mais moi, je la vois vraiment par la décentralisation. C'est vraiment une foi, une véritable pétrolière qui va mettre les pays à sang et à feu. C'est incroyable ce qui se passe à travers les provinces. Je pense qu'on lance la décentralisation avec des calculs politiciens. On aurait pu y aller progressivement. Même une province par an, une province par quinquennat. Mobutu l'avait fait à son époque, fait à son âme, lorsqu'il avait tenté, après plus de 25 ans de décentralisation, il avait progressivement tenté la décentralisation. Mais c'était une décentralisation progressive, où chaque étape devait constituer une matrice pour améliorer la prochaine. On avait tenté la décentralisation de Goma, de l'ancien Kivu. C'était Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, mais on a vu que c'est une décentralisation vraiment prudente. On a étudié toutes les questions dans l'air de subtilité, si bien que la décentralisation de Kivu était plus une opportunité que une menace aujourd'hui. Aujourd'hui, la décentralisation, c'est une grosse menace. Et si on fait attention, l'implosion du pays viendra par la décentralisation et non par la guerre.
Jean-Claude Bimois, là, plusieurs années ont permis aussi de pouvoir mettre en exécution ce processus de décentralisation, parce que si nos mémoires sont toutes bonnes, nous nous rappelons que le pays a été plusieurs fois subdivisé, comme vous dites, de manière progressive, mais c'était dans le souci, avec le besoin que l'administration était trop éloignée du citoyen lambda reculé du dernier coin de la RDC. Est-ce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas seulement un processus qui va connaître ses difficultés, mais qui va finir par atterrir normalement?
Non, j'ai bien peur parce que la difficulté est généralisée. C'est devenu comme une gangrène, hein. C'est devenu comme un véritable cancer pour ces pays. Regardez, il y a des provinces comme les Kwakiers qui ont changé 5 fois de gouverneur en une mandature. 5 fois, vous comprenez? C'est incroyable. Il y a des provinces où des gens se querellent pour des crimes et on veut descendre le gouverneur. Le chef de l'exécutif. C'est incroyable. Est-ce que c'est vraiment ça, rapprocher la province, rapprocher le décideur des administrés? Je pense que là, on a rapproché des problèmes de leurs résoluteurs. Voilà.
Merci Jean-Claude Bimoila. Puis Gérard Elenga, journaliste politique, êtes-vous aussi pessimiste que semble pour le moment l'être Jean-Claude Bimoila? Voyez-vous la mort du pays avec cette décentralisation telle que faite aujourd'hui, ou voyez-vous plutôt une renaissance qui est en train de se mettre en place, qui est douloureuse, mais qui va finir par donner des bons fruits?
Non, écoutez, Donat Madimba, moi je pense que nous, Congolais, parfois, nous sommes nous-mêmes le problème de nous-mêmes. C'est-à-dire, au centre de nous, se trouve nous par rapport à tous ces problèmes que nous avons. À chaque fois que je discute un tout petit peu avec le professeur Jean-Louis Sambo, un des grands constitutionnalistes de mon pays, je lui ai toujours dit que tout est parti, même si on ne partage pas les mêmes avis, tout est parti de ce mimétisme constitutionnel qu'on nous a amené ici. Et je le cite parce qu'il a été un des rédacteurs comme expert dans la fabrication de cette constitution du 18 février 2006 que nous avons. 13 ans après, surtout sur le plan de la décentralisation, qu'est-ce que nous avons comme résultat? C'est tout ce que nous sommes en train de voir, un échec cuisant, un échec patent. Les gens n'ont pas compris que la constitution tout autant a une dimension juridique, mais elle a également une dimension sociologique. on construit une constitution, on pense une constitution par rapport à nos propres réalités, à nous. Il faut que les intellectuels, l'élite, ouvrent un peu ce débat. Aujourd'hui, par exemple, dans notre pays de là, est-ce que nous avons besoin d'avoir un parlement bicaméral où vous avez un Sénat et une Assemblée nationale? Avons-nous besoin de toutes ces assemblées provinciales pourries? Qui parlait avant moi là? C'était Jean-Claude. Vous avez vu à l'Équateur, par exemple, où vous avez, dans un délai très record, on a changé au moins autant de gouverneurs. Et vous avez des gouverneurs vraiment incompétents qui ne savent rien, des députés provinciaux qui, à peine certains étaient des pêcheurs, de ceci, viennent croire qu'ils vont venir s'enrichir sur le dos du gouverneur. Et vous avez de l'autre côté des députés nationaux provinciaux qui ne savent pas accompagner la province. Vous êtes là, par exemple, comme je le disais, en Bandaka ou à Bassank ou soit Ngende ou je ne sais pas moi, et ça pose des problèmes. Dans la Constitution, nulle part on a dit que les provinces doivent être dirigées par les originaires. Ceci n'est pas dit. Mais regardez les calculs politiciens. On fait en sorte que dans l'imaginaire collectif, on a dit qu'on a fait passer un message comme pour dire que ne peut être gouverneur au Congo central que Mukongo. Ne peut être gouverneur, par exemple, à Kassai oriental que un Kassai ou bien un Mulumba. Alors que ce n'est pas dit ainsi dans la Constitution. Nous avons vu Konde Villa Kikanda, qui est du Congo central, se faire élire député national à Goma. Vous voyez un peu. Donc on a fait passer un autre message et aujourd'hui c'est un véritable danger que nous avons parce que la Constitution a été conçue sur base, sur fond, ne tenant pas compte de nos propres réalités. Je me pose la question, aujourd'hui les élections au niveau local posent des problèmes. Depuis le processus de 2006 jusqu'à aujourd'hui, les élections locales ne sont pas organisées. Raison principale, l'argent. Mais pourquoi avez-vous prévu les élections de la petite territoriale dans notre constitution? On pouvait s'en passer. Le mandat de 5 ans pose problème aujourd'hui. Kabila nous a eu 2 ans de plus. Est-ce que on avait besoin de dire qu'il faut 5 ans comme durée de mandat? On peut se dire que le mandat présidentiel c'est 8 ans. Une fois non renouvelable, par exemple. Ou bien le mandat présidentiel, c'est 9 ans ou c'est 7 ans. On tient compte de nos propres réalités. Tout ça, ça a été fait au niveau des calculs politiciens. La décentralisation se confond aujourd'hui par le tribalisme. Et vous voyez toutes les menaces de l'Est. Si on continue ainsi, ça va poser problème. Donc je chute en disant, il faut un courage particulier pour engager des réformes constitutionnelles fortes. S'il faut revenir à 11 provinces, revenons, parce qu'il n'y a pas l'argent pour accompagner cette décentralisation. Nous avons des chefs-lieux de nouvelles provinces où il n'y a pas de bâtiments, les assemblées provinciales n'ont pas où siéger. Donc voyez un peu cette décentralisation qu'on imaginait que ça pouvait être installé. Ça nous a amené plutôt toute cette panoplie de problèmes que nous avons. Donc il faudrait que cette législature puisse y penser et chercher à remédier, donner des solutions qu'il faut pour que nous ne puissions pas aller dans cette confusion. Bako, Congo central, et Ituri, tout ça, les gouverneurs vont et reviennent, les assemblées, un désordre inimaginable. Et Tshisekedi l'a relevé dans son discours. Tout ce qui est vrai, c'est qui est vraiment très désolé.
Merci, puis Gérard Elenga. Ali Boukassa, directeur général de la radio communautaire Boutoka, émettant de Moneditou, également coordonnateur de l'agence Lumière dans la communication Lucom en sigle à Moneditou, province de l'Omami. Alors, une réflexion est actuellement en cours. Les conclusions, en principe, devraient tomber ce week-end. Avez-vous l'impression que la RDC est vraiment en mauvaise posture avec ce processus de décentralisation depuis 13 ans?
Ça me fait beaucoup rire, hein. Et ça me rappelle même la citation de mon professeur de sociologie politique. Je cite ici Jeff Moudibi qui nous disait « Congolais, est-ce que vous savez ce que vous voulez ? » Est-ce que nous, Congolais, nous savons ce qui est bon pour nous ? La décentralisation, bien avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord ici préciser aussi que le découpage n'est pas égal à la décentralisation. Le découpage, c'est une des activités de la décentralisation. S'il faut parler du découpage, ça a vu jour dans notre pays le 15 juillet 2015, ce qui ferait aujourd'hui 4 ans et puis quelques mois. Est-ce que la République démocratique du Congo n'est pas allée trop vite dans la décentralisation? Je dis non, pardonnant. Ce n'est pas parce que le thermomètre indique 40 et autres que nous devons casser le thermomètre. Non, attaquons la maladie. Aujourd'hui, et dans notre pays, la décentralisation, elle a été politisée et même politisante. Je vais expliquer.
La province de Lomami, je pourrais même la faire passer pour la province pilote de l'échec ou de la réussite de la décentralisation. À l'heure qu'il est, cher Donat et cher Jean-Claude et puis Gérard, dans notre province de Lomami, le territoire de Nanajika et le territoire de Kamiji réclament leur retour au Kasaï oriental. Pétition déjà en signature. Le territoire de Luilou et la ville de Monévitou signent la pétition pour que le chef-lieu parte de Kabinda à Monévitou. Et ici, à Monévitou, toutes les communautés, beaucoup de communautés et mutualités signent cette pétition pour qu'il y ait délocalisation de la, du chef-lieu. Si nous prenons ne fût-ce que cet exemple, vous verrez qu'il y a possibilité de se demander est-ce que la décentralisation elle est à notre taille. À la fin, ce que j'en déduis, c'est quoi? Il faut de la discipline, de la rigueur et du suivi. Je me rappelle en son temps, Joseph Kabila Kabange, alors président de la République, lors de son passage au Congrès, je vais le paraphraser, il va dire « Gouverneur, vous n'êtes pas des seigneurs. » Donc la province n'est pas une seigneurie. C'est parce qu'il y a des choses qui se font dans des provinces qui échappent au gouvernement central. La décentralisation a pour mission de rapprocher les gouvernants des gouverneurs.
Alors, Ali Boukassa, on est déjà presque en train de terminer cette émission. Un peu de mots pour vous. Le processus de décentralisation tel qu'il est vécu depuis ces 13 années, c'est un échec? Ou est-ce qu'on pourrait améliorer? Doit-on, selon vous, retourner à moins de provinces que ce qu'on a pour le moment ou pas?
Je ne suis pas de ceux qui prennent les choses par leur revers. Non. Nous nous sommes déjà engagés. Allons jusqu'au bout. Réhabilitons, arrangeons ce qu'il y a. J'étais en train déjà de le proposer. J'ai parlé de la discipline, de la rigueur et du suivi, par exemple. Mais confrères ont parlé des relations qu'il y a entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Il faut qu'il y ait un encadrement, si pas légal, que politique, de toutes ces deux institutions politiques provinciales pour que l'on permette aux provinces d'aller de l'avant et que les populations de province puissent jouir des fruits escomptés de la décentralisation. Voilà tout ce que je peux, parce que nous sommes à la sortie de l'émission.
Merci Ali Boukassa, je considère ça comme votre conclusion. Très rapidement, en très peu de mots, puis Gérard Elenga, qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques secondes de nos deux thèmes de ce soir?
Non mais écoutez, par rapport d'abord au premier thème, je suis en train de dire que ce genre d'activité en termes de sensibilisation des violences faites à la femme congolaise doivent être des activités permanentes et que à ce stade-là, toutes les institutions, toutes les structures sociales doivent mettre la main dans la pâte pour que la femme congolaise puisse être sensibilisée. La décentralisation, je suis de ceux qui pensent qu'il faut changer cette constitution. Je pèse mes mots, pas réviser, mais changer parce qu'il y a des choses inutiles justement par rapport à la décentralisation qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Il faut éliminer par exemple les assemblées provinciales, les gouverneurs, revenir dans la nomination par rapport au parti qui va plus gagner les élections. Et je cite en disant que dans le sens de même de cette même décentralisation, la population de l'Équateur et celle de Bassan pour son particulier doit tenir bon.
Merci Jean-Claude Bimoala. En très peu de mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'émission de ce soir?
Nous, il faut avoir le courage d'arrêter et repenser une autre façon de faire, hein, parce qu'on n'a pas de résultat. Et je ne veux pas que cette décentralisation soit un gouffre financier et un gouffre sécuritaire. Et ensuite, je pense que plusieurs problèmes que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce que les élections que nous avons connues n'ont pas respecté la volonté de l'électeur. Et il sera difficile pour nous, pour notre pays, d'avoir des bons dirigeants ici des mauvaises élections.
Merci Jean-Claude Dumoila. Jean-Noël Mokondo était à la technique, Eline Kouté à la réalisation, supervision Alain Irung, Dona Madimba c'est moi à la présentation, tribune de presse, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.